Bon, alors, pour revenir au problème, et en fait, lorsque ceux qui avaient la Semicha jugeaient qu'un Talmid Chacham était digne de recevoir la Semicha pour une autre communauté, alors ils se rassemblaient et en public, ils lui donnaient la Semicha, c'est-à-dire l'ordination, en plaçant ses mains sur sa tête. Okay? D'où Semicha, l'ismour. Et alors les Romains avaient décidé, si des rabbins font la Semicha, ils sont mis à mort tout de suite. Donc la Semicha a été arrêtée. Et alors, ce n'est que, si vous voulez, par réputation que dans certaines communautés restées encore traditionnelles, on savait qu'un tel passe à un tel, un tel passe à un tel, mais il n'y a plus rien d'officiel ni de légal depuis des siècles. Et c'est la raison pour laquelle il y a un tel état de chaos dans le problème de l'autorité traditionnelle contemporaine. Enfin, la question de tous les juifs, c'est mais celui-là me dit comme ça, celui-là me dit comme ça, celui-là me dit comme ça, chez qui je vais aller? Vous comprenez le problème? Bon, donc, c'est un problème en soi, si vous voulez, on l'étudiera pour lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais la difficulté vient de là. Pourquoi je vous ai cité tout cela? Ah oui, à propos de la tradition orale. Bien, je pourrais vous citer énormément de références, en particulier dans Baba Kama, à la fin du premier chapitre. On en a un enseignement que lorsque la Torah dit que la bastonnade c'est 40 coups de bâton, je vous ai parlé de la bastonnade, de la prison, tout ça. Oui, ne me dites pas non. Voilà. Vous vous rappelez de ça, je vous ai parlé. Alors la Torah dit 40, mais on sait que c'est 39. Alors il y a un rabbin qui explique en faisant l'exégèse du verset que c'est évident que, puisqu'il y a écrit 40, que c'est 39, ça va de soi. Il le montre dans le verset. Un autre rabbin se lève et il dit: tu mérites une malédiction. Parce que tu préfères un Sefer Torah mort à un Sefer Torah vivant. Moi, mon maître m'a dit que c'est 39. C'est la différence. Alors, qui c'est le Sefer Torah vivant? C'est son maître. Tandis que le Sefer Torah mort, c'est le livre. Vous voyez jusqu'où ça va. C'est-à-dire interdit de faire le raisonnement pour savoir que c'est 39. Nous savons par tradition orale que c'est 39. Un point. Parce que, vous comprenez quel est le danger. Parce que si c'est comme ça, celui qui sait que c'est pas tradition orale, et c'est parce qu'il sait que c'est pas tradition orale qu'il peut le voir dans le texte. Mais non, si c'est qu'il ne l'a vu que dans le texte, il peut voir ce qu'il projette. Il peut faire dire au texte ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai expliqué ça une fois. Dans chaque livre, il y a trois livres, au moins. Il y a le livre que celui qui a voulu écrire a écrit, il y a le livre que celui qui lit, et il y a le livre qui est écrit. Alors lequel on lit? Vous suivez? Bon, méfiez-vous de tous ces problèmes-là. Ken?
On pourrait commencer à étudier dans un livre que quand on devait étudier oral.
En tout cas, ne pas mélanger, ne pas confondre. Ça c'est la tradition, ça c'est ce que j'ai lu dans un livre. Parce que la plupart du temps, vous lisez quelque chose que l'auteur qui a voulu écrire n'a jamais pensé à ça. C'est pas ça qu'il a dit. Vous avez remarqué que quand on étudie un peu d'exégèse, de commentaires traditionnels mis par écrit, vous avez pas remarqué qu'il faut des heures avant d'établir mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Vous avez remarqué cela? Bon. Alors faites bien attention à cela. Il faut apprendre. Parce que s'il n'y a pas un Homer, et ça vous pouvez apprendre dans tous les livres que vous voulez, apprendre, mais comprendre, ça c'est autre chose. Et distinguez bien ce que vous avez cru comprendre par vous-même de ce qui vous a été enseigné. Ça n'a rien à voir. Tant qu'on n'a pas confirmation d'une opinion, d'une hypothèse, ça reste opinion, hypothèse. Ça peut arriver que c'est la vérité. Mais où est le critère? C'est que par coïncidence ça a été la vérité. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris le problème? Bon. Alors, bien entendu, il faut apprendre par soi-même. On ne peut pas apprendre avec la tête de quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas mélanger les niveaux d'évidence, les niveaux de certitude. La chose la plus grave pour un Talmid Chacham, c'est, par inadvertance, de prendre une hypothèse d'explication pour une connaissance. Hypothèse, c'est hypothèse. Vous suivez? Et l'hypothèse peut être brillante, cohérente. Tant qu'on n'a pas confirmation, ça reste hypothèse. Vous avez compris cela? Très souvent, je me dispute avec les gens des yeshivotes pas traditionnels, et Dieu sait qu'il y en a, qui discutent comme ça. Alors peut-être on pourrait dire que... Arrête, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être on va... D'abord tu perds du temps. Et ensuite, toi un rabbin, tu vas me dire peut-être on va... Dis ce qu'il faut dire. Vous y êtes? Mais méfiez-vous de ça. Okay? Ça c'est ce qu'on appelle le pile-poule. Bon, ok.
Les commentaires ont été énoncés oralement au Sinaï par Moshe.
Dans le principe, oui.
C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il faille attendre Rashi, par exemple?
Parce qu'en son temps, on avait oublié tellement de choses qu'il a fallu que Rashi les rappelle. Faites pas l'erreur de croire que le commentaire ajoute quelque chose. Il vient nous rappeler quelque chose qu'on a oublié. C'est parce qu'on devient de plus en plus ignorant qu'il nous faut de plus en plus de livres. La nécessité d'un commentaire supplémentaire, c'est le signe d'un affaiblissement de la connaissance. Des choses qui vont de soi, finalement, ça disparaît. Alors, des choses qui vont de soi, on ne les met pas par écrit. Alors, quand ça ne va plus de soi, il faut les mettre par écrit. C'est tout le contraire. Hein? Je vous donne un exemple. Rashi n'avait pas besoin du commentaire de Rashi pour lire son verset. Taïe, c'est clair. Voilà, on fait des découvertes. Et Rashi, comment il faisait sans Rashi?
Il avait
certains
autres commentaires.
Lesquels? Parce qu'il connaissait ses juifs. Quand il rentrait dans la synagogue et que les juifs parlaient de la paracha de la Shavua, il entendait de telles ch'touillotes qu'il s'est dit il faut avoir pitié d'eux. Alors on va leur donner un petit bréviaire, là, nota bene. Bon, j'exagère un peu, mais pas tellement. Alors revenons au problème. Ce que je voudrais quand même arriver à ce thème-là, c'est que c'est là que se constitue l'identité qui va devenir l'identité juive et qui s'appelle judéenne étymologiquement. Et vous vous rappelez des deux thèmes fondamentaux qu'on a déjà étudiés dans les cours sur la diaspora. Première grande différence, l'arrêt de la prophétie. Vous vous rappelez de cela? L'hébreu devient juif, qu'est-ce qui disparaît? La prophétie. Deuxièmement, l'être de dispersion, l'identité de dispersion, identité mixte. Okay? C'est clair? Avec la Megillat d'Esther, on va enrichir ces thèmes-là avec une troisième dimension très importante. C'est une atmosphère de clandestinité et de déguisement qui va apparaître. Okay? La Megillat d'Esther, c'est un livre de la clandestinité. D'accord ? Caché. Qu'est-ce que c'est qu'un juif? C'est un hébreu qui, par stratégie de survie, va se déguiser en goy. Et le jour de Pourim, il se déguise en juif pour se rappeler qu'il est hébreu. Mais c'est comme ça, c'est la halakha. Okay? Tous les jours de l'année, c'est interdit de se déguiser. Okay? À Pourim, c'est une mitzvah de se déguiser. Parce qu'on joue, cette stratégie de déguisement qui a fait l'identité juive. Et Pourim, c'est la fête juive par excellence, opposée à hébreu. Okay? Comprenez bien cela. Et effectivement, dans les communautés traditionnelles, l'habitude à Pourim, c'est de se déguiser en juif. Je me rappelle très bien, quand j'étais enfant, je me déguisais en juif tunisien. Parce que toute l'année, on était habillé en juif algérien. Alors, à Pourim, on se déguisait en juif tunisien pour faire juif. Je me rappelle très bien, d'ailleurs, j'avais un très beau déguisement. La chéfia n'est pas la même. D'autres se déguisaient en juif algérien, d'ailleurs. Enfin, pour se déguiser en juif. Il y avait des Algériens qui arrivaient à réussir un déguisement de juif algérien. On voyait qu'ils étaient déguisés en juif algérien. Alors, et vous aurez cette expérience à Pourim, vous serez à Jérusalem, si Dieu veut, okay? Vous irez à Mincharim et vous verrez des gosses de chassidim déguisés en chassidim. Et c'est une réussite parfaite. Ils ont gardé la tradition. Okay. Moi, Le vêtement juif, c'est un déguisement. À Pourim, on se déguise en juif pour se rappeler qu'on est hébreu. Et l'humour juif, ce que c'est. Okay. Et la plus grande réussite, c'est d'arriver à se déguiser en juif. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'on va... On va... Un juif français, c'est un juif avec une baguette. Ah non, j'ai trouvé. Un juif français, c'est un juif avec la Légion d'honneur. Et alors, mais d'ailleurs, vous faites penser quelque chose, mais dans nos sketchs aux Aïe en Algérie, pour, c'est marrant parce que pour représenter un français, on se déguise en légionnaire. Quoi? Tout juif est déguisé. Moi, je suis déguisé en européen. Il a l'habit de la culture de la Roumanie ou de la Hongrie du 18e siècle, du 16e siècle. Okay? Oui. Quand vous voyez un curé avec la soutane, il n'est pas déguisé. Il est habillé comme les clercs du 14e siècle. Comme il est dans les couvents, on a gardé l'habit du temps, ou les bonnes sœurs, c'est la même chose. Ils ont gardé l'habit du village où le couvent a été fondé. Partout ailleurs, la mode a évolué, ils ont gardé l'habit par fidélité. C'est la même origine que l'habit des Hassidim. Ils ont gardé l'habit des boyards, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, des seigneurs du temps. Okay. La Roumanie, elle a changé de vêtements, mais eux, ils ont gardé la fidélité. Comment ils sont moins déguisés? Mais il n'y a pas de différence. Vous croyez qu'ils sont déguisés par rapport à vous, mais quand ils vous regardent, ils se demandent en quoi vous êtes déguisés. Mais il n'y a pas de différence, c'est-à-dire... ou alors, vous ne comprenez pas le sens des mots que j'emploie, je pense trop vite. Un juif, c'est un hébreu déguisé en goy, dans l'apparence extérieure. Vous voyez, c'est clair. Par exemple, mon grand-père avait une djellaba, mais c'est un habit arabe, pas du tout juif. Vous voyez, c'est clair. Hein? L'hébreu, on a perdu tout ça. Alors, chaque fois que vous avez des artistes modernes qui essayent de retrouver dans leur imagination... alors ils prennent modèle sur les Bédouins. Pourquoi? Parce qu'ils habitent la Palestine. Mais les Bédouins n'étaient pas habillés comme des Hébreux. La seule chose des Hébreux qui nous reste, c'est le Talit. Oui, c'est clair. Bon. Mais n'importe quelle tunique est une tunique. Et quelle forme elle avait? Bon, qui est des tuniques? Barour, tunique, ça fait habit de l'Antiquité. Mais où est la tunique hébraïque? Comment elle était? Qui peut le savoir? Hein? Si, quand la prophétie recommencera. Bon. Et alors, je vais vous dire mon avis, Ken. C'est très important, la vie des Hébreux. Mais ce qu'il y avait d'Hébreux dans la vie des Hébreux, j'ai dit la vie. Ce qu'il y avait d'Hébreux dans la vie des Hébreux, c'était le tzitzit. Ça n'a aucune importance que je m'habille avec une djellaba ou avec un veston ou avec un caftan si j'ai le tzitzit. C'est clair? Alors, ne vous attrapez pas au sens, à la lettre des mots. Okay. Ça veut dire que tu parles, c'est de l'imagination de l'éditeur de ce livre. Il ne faut pas exagérer. Tout ce qu'on a gardé dans les communautés très traditionnelles, c'était la forme des linceuls. Ça, on a gardé. Comment étaient les linceuls? Ça, oui. À condition qu'ils soient faits de linceuls, pas avec la laine. C'est interdit de mélange. Okay. Et alors, le... Bon, revenons au problème. Voilà ce que je veux dire. C'est dans son identité culturelle même, okay, l'hébreu, le dernier des hébreux, c'est le judéen, okay, l'hébreu descendu en exil commence à s'habiller en perse. Qu'est-ce que c'est ce juif là? C'est un hébreu déguisé, okay. Mais je veux dire que le déguisement de Pourim renvoie à l'identité de déguisement, qui est cette identité de clandestinité des Juifs. Dès qu'on va rentrer dans la lecture de la Megillah, et je voudrais que vous le lisiez le plus rapidement possible, on rentre dans une atmosphère de clandestinité. Ce sont des Hébreux en résistance. Vous comprenez cela? Tout est caché, et dans une atmosphère de camouflage d'identité. Je vous donne un certain nombre de clés tout de suite. Okay. Vous verrez que le nom d'Israël n'est pas prononcé dans toute la Megillat d'Esther. Le nom de Dieu n'est pas prononcé. Tout ça, on va étudier chose par chose. Il y a des raisons précises. Okay. Le nom de Jérusalem n'est prononcé que pour rappeler que Mardochée est un exilé de Jérusalem. Okay. Définition déjà confessionnelle, religieuse. Okay. Oui. On entre tout à fait, d'emblée, de plein pied, dans l'identité juive de la diaspora telle qu'elle va se développer pendant des millénaires. Okay. On est en résistance, en survie, en sursis, en clandestinité, dans une atmosphère de maquis. Okay. Tout est chiffré. Et on ne peut pas dire la vérité. Si le Perse demande, qu'est-ce que tu es, judéen ou Perse? Le juif répond, je suis Perse, d'origine judéenne. Vas-y, tu es Perse, d'où tu es Perse? Ah, je suis Perse. Vous voyez ce que je veux dire? Et extraordinaire, quand on dit la capitale, c'est Shushan HaBira. La capitale, c'est Suse la capitale. Oui, c'était Suse la capitale, ça va pas? Et Jérusalem? Comment? Un livre hébreu de la Bible. Vous voyez, l'identité juive apparaît dans le dernier livre de la Bible. C'est la clôture du temps des Hébreux. On rentre dans le temps juif avec la Megillat Esther. Tout est caché. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous voyez le thème que nous aurons à suivre dans toute la lecture de la Megillat. Alors, retenez que le thème du déguisement est extrêmement important en relation avec Pourri. Parce que c'est l'identité juive qui apparaît. Okay? Mais retenez cela. C'est que le jour de Pourim, on se déguise en juif pour se rappeler qu'on est hébreu. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Quand même un quart d'heure, un peu moins, à peu près un quart d'heure. Bon, alors je voudrais qu'on étudie ensemble ce dernier tableau pour situer l'événement historique dans lequel ça va commencer. Je voudrais un Tanakh, si vous avez, par ici. Ah voilà, j'en ai un, ça va. Voilà. Et alors, je vais vous demander de lire par vous-même, déjà pour demain matin. D'abord, avancez le plus possible dans la Megillah. De lire le dernier chapitre de la Bible. On va commencer par le lire ensemble. C'est dans les Chroniques, livre 2, chapitre 36, pardon. On va vous lire ensemble les deux versets. Les deux versets du dernier verset du Tanakh. Est-ce que je voudrais vous demander de vous habituer par vous-même à comparer l'atmosphère de ces deux versets qu'on va lire et l'atmosphère de la Megillat Esther. Hein? La différence de l'atmosphère. Regardez bien. Alors prenez à la fin. Alors vous n'avez pas le Tanakh sous les yeux. Non, mais je vais vous lire, mais vous le reprendrez. Le verset 22, le verset 23 du chapitre 36 de la fin du livre. Ubishna tachat le Koresh, la première année du règne de Cyrus, Meler Paras, roi de Perse, l'ichlot de Barachem, à la fin de la révélation de la parole de Dieu, c'est-à-dire à la fin du temps de la prophétie. Vous suivez, vous comparez avec votre tableau pour voir où ça se situe. Okay? Befi Yirmiyahu, dans la bouche de Jérémie, et Eir Hashem, Dieu a éveillé, et Trouar, l'esprit, Koresh Meler Paras, de Cyrus, roi de Perse, vaya Aver Kol Bechol Malchuto. Et Cyrus a fait passer un édit dans tout son royaume, le Gam Bemirtav, et même par écrit. Regardez la différence. Kol, et après par écrit. Okay? Pour dire, le dernier verset, Koamar Koresh, ainsi dit Cyrus, Meler Paras, roi de Perse, Kol Mamlechot Haaret, tous les royaumes de la terre, Natan Li Hashem Elokei Hashamayim, m'a donné Hashem, Dieu du ciel, Vehu Pakad Alai, et il m'a donné comme consigne, Livnot Lo Bayit Birushalayim, pour lui construire une maison à Jérusalem, Asher Bihuda, qui se trouve dans Juda, dans la Judée. Ni Bachem, qui parmi vous, Mikol Amo, de tout son peuple, Hachem Elokab Imo, Hachem son Dieu avec lui, Veyahal, et qu'il monte. Aliyah. Vous voyez que Aliyah, c'est le dernier mot du Tanakh. Hein? Voilà. Ici, nous avons un texte où Ces Judéens en exil, vous suivez, sont sortis de la clandestinité par une proclamation de Cyrus, qu'on va appeler la proclamation Cyrus. Okay? Atzahat Koresh. Et alors, les Judéens ont le droit de sortir de la clandestinité. Cyrus est inspiré, et puis, il le dit lui-même, il donne le feu vert pour les Judéens de remonter à Jérusalem et construire leur temple. Okay? Bon. Vous avez une atmosphère de sortie de la clandestinité qui contraste absolument avec l'atmosphère de clandestinité que vous allez avoir dans la Megillat Esther. C'est clair ? Alors, suivons le tableau une minute. Alors, vous avez en 3390, dans votre tableau 6, là, déclaration de Cyrus. Okay. Vous suivez ? Bon. Et puis, en 3392, c'est Assuérus, le Hachvéroch de la Megillah, qui prend le pouvoir. Il y a un changement de dynastie. Il prend le pouvoir. En 96, apparaît Aman. Vous y êtes ? Misère Aman. Il aurait dû mettre un H, d'ailleurs, enfin, peu importe. Bon, il vous a donné d'ailleurs un tableau parallèle à ce qui se passe de notre temps. Vous avez en 5677, en bas, le tableau d'en bas, déclaration Balfour. En 5693, Hitler apparaît. Et vous voyez l'ordre. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe au temps de la Perse? Déclaration de Cyrus, il donne le feu vert, les Juifs ne bougent pas. Alors, Aman apparaît. Bon. Et cette communauté a été sauvée parce qu'il y avait la reine Esther. C'est cette histoire qu'on va lire et étudier dans la Megillat Esther. Alors, on pourrait dire, je schématise beaucoup, mais vous comprenez par vous-même, bien, de notre temps, il y a eu le même rythme. La déclaration Balfour est arrivée en 1917. Les Juifs n'ont pas bougé. Alors, Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne. Et la suite, vous la connaissez. Seulement, il n'y a pas eu la reine Esther. Vous voyez le problème. Bon, vous comprenez le... Alors, la lecture que nous allons avoir de la Megillat Esther, je vais la suivre dans plusieurs révadim, mechorim et niveaux à la fois. En particulier, le niveau de la constitution de la communauté juive pour la première fois et dans la relation au monde extérieur, qui est l'Empire perse. Et nous allons voir là le modèle de la situation du juif dans l'histoire. Et puis, d'autre part, une lecture dure, okay, du fait d'une sorte de complaisance dans cette identité provisoire qui va s'installer comme définitive pour des millénaires. Vous voyez le problème, okay. Et les minutes qui me restent, je voudrais expliquer le premier point de ce thème-là. D'ailleurs, vous pouvez l'intituler comme cela, l'identification sociopolitique de l'Empire perse dont nous parle la Megillat Esther, et vous vous appuierez vous-même, vous donnerez ça comme exercice, sur les premiers versets du premier chapitre de la Megillat Esther. Bon, cet empire perse rassemblé 127 provinces, dit le texte, en réalité 127 royaumes, c'était un empire colossal. Vous savez d'ailleurs que ça avait été une civilisation prestigieuse, la civilisation de la Perse de l'Antiquité, vous savez cela. Une civilisation, un empire colossal qui rassemblait pratiquement tout le royaume qu'on pouvait appeler civilisé de la civilisation du temps. Mais Hodou et Hadkouch, vous verrez dans le texte, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, en faisant le tour de toute l'Asie. Okay, vous voyez, ça rassemblait tout le monde civilisé de ce temps-là, dit-il. Eh bien, c'était un empire très libéral. Vous verrez d'après le texte lui-même, vous le retrouvez par vous-même. Chaque royaume, province, si vous voulez, avait une autonomie réelle, et de gouvernement, et de culture, et de langue. Vous retrouverez les détails dans le texte, je vous interrogerai là-dessus d'ailleurs. Et dans cet empire, il y a deux cas particuliers. Si vous voulez, nous allons choisir cette année, d'ailleurs depuis plusieurs années, je crois que c'est l'exemple le plus clair dans les L'année précédente, je prenais l'exemple de l'Égypte, mais je vous le citais en passant. Nous allons choisir comme modèle de référence pour identifier actuellement l'Empire soviétique. Mais c'est un empire. Non, je parle maintenant de l'Empire perse. Mais on fera qui a officiellement une constitution extrêmement libérale. Okay. Chaque république soviétique est autonome. C'est la même chose. Okay. Chacune a excellent. Il y a deux cas particuliers dans l'Empire perse. Les Amalécites et les Juifs. Qui c'est les Amalécites? C'est les descendants d'Amalek, donc les descendants d'Ésaü. Okay. On les retrouve. Et les Judéens. Et que représente le cas particulier dans le statut de l'Empire? C'est que dans le statut de l'Empire, tout peuple a son territoire. C'est une province qui rassemble dans la même cohérence le territoire, le peuple du territoire, sa culture, sa langue, sa religion. Et il y a une fédération des... Vous voyez, comme ça ressemble beaucoup, beaucoup à l'Empire soviétique. Mais il y a un cas particulier, c'est les Juifs. Ils n'ont pas de territoire dans cet ensemble de pays. Puisque leur territoire, c'est la Judée. Vous suivez? Par conséquent, ils sont en dispersion, indexés, et Romrim Tzamoud, Ken, indexés, greffés, c'est le mot que je cherchais, sur les autres peuplades de l'Empire. Et en particulier, d'ailleurs, ils se trouvent surtout dans les grandes villes, exactement comme les Juifs. Ça commence à cette époque-là. Okay. Il y avait énormément de Judéens qui avaient des propriétés de campagne, ils étaient très riches, etc. Mais malgré tout, la communauté juive se trouve dans les grandes villes. Vous voyez, une espèce de dimension qui va tout de suite être en but à l'accusation de cosmopolitisme à l'intérieur d'un empire de constitution très libérale. Vous y êtes? Et d'autre part, une autre peuplade rivale des Juifs, les Amalécites. Or, les Amalécites, avec Haman à la tête, Haman, je vais le dire en hébreu, sont au pouvoir, c'est-à-dire c'est le parti à l'intérieur du régime. Alors il y a trois dimensions. Il y a les nations de cet empire, le parti et les Juifs. Voilà. Vous voyez à quel point c'est très parallèle à ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Okay. Vous avez les peuples de la Russie, chacun avec son territoire. La constitution officielle de la Russie, c'est évidemment une autonomie des provinces. Okay. Il y a deux cas particuliers, le parti communiste et les Juifs. Le parti dans l'État, okay, et les Juifs. Et c'est la même chose que vous retrouvez quand il y aura la situation de l'Égypte, du Pharaon. Il y a les différents peuples asservis par cet empire, avec, comme bien entendu, province principale, les Égyptiens de l'Égypte, de la même manière qu'en Russie soviétique, les Russes blancs. Okay. Il y a les Russes blancs et les autres. Bon. Et puis, il y a les serviteurs du Pharaon, vous avez remarqué ça dans les versets, les serviteurs du Pharaon, c'est le parti au pouvoir. Et il y a les Hébreux. Okay. Oui, nous retrouvons la même structure dans cette civilisation de la perte d'Assuérus, qui n'est pas totalitaire, en tout cas légalement, comme l'Égypte du Pharaon, qui est vraiment un empire très libéral, mais qui a à résoudre le problème des Juifs. Et comment il l'a à résoudre? Dans la rivalité avec les Amalécites. Vous suivez? Bon. Si vous voulez, pour prendre un pays un peu comme la France, très rapidement. La France, qui est précisément le résultat d'une fédération de provinces. Okay. C'est clair. Bon. La France, finalement, peut être vue d'une certaine manière comme un empire ayant fédéré ces différentes provinces, avec une constitution très libérale. Okay. Et puis vous avez quand même deux cas particuliers. Les Juifs, qui, bien que citoyens de l'Empire, enfin de la France, n'ont pas de territoire à eux. Ils ne font pas partie du terroir, vous voyez ce que je veux dire? Et le parti fasciste, quel qu'il soit, les francistes, ceux qui sortent de l'école normale, ou peu importe, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les serviteurs de l'État. Okay. Et vous voyez à quel point c'est très, très, très parallèle chaque fois. C'est-à-dire c'est la même situation sociopolitique des Juifs dans les nations où ils vivent. Mais je crois que de notre temps se dévoile vraiment un exemple très, 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 très clair. C'est la Russie soviétique. Il n'y a pas de doute. on semble voir un décalque. Voilà. Et d'ailleurs, comme je dis souvent à Pourim, et ça tout le monde l'a su, puisque la su est russe. Bon. Et pour revenir au problème, la première scène, et je vais m'arrêter là aujourd'hui, la première scène qui va nous être racontée, c'est la tentation des Juifs à l'assimilation. Vous allez le retrouver vous-même dans le récit du premier chapitre. Okay? Les Juifs sont mis à l'épreuve de l'assimilation. Et comme précisément ils ne vont pas résister, alors Aman va venir. Oui? Donc, alors nous aurons à revoir tout ça, et d'autres thèmes bien sûr, Léat et pas à pas. Donc, demain matin on continue. On va raconter, cela s'est passé au temps de Assuérus. Et d'autre part, est-ce que vous avez eu un cours d'histoire de Madame Neher sur ces événements? Vous n'êtes pas arrivé là? Où est-ce que vous êtes arrivé en histoire? Vous êtes arrivé plus loin? Ken? Bon, vous avez fait très rapidement dans le texte, enfin, ce n'est pas un cours d'exégèse qu'on aura ce matin. Et notez-le parce que nous allons retrouver un élément très analogue dans l'histoire des Hébreux en Égypte, où il y a eu aussi un changement de dynastie qui explique un certain nombre d'épisodes qui se passent pour les Hébreux en Égypte. Et tant que le souvenir de Joseph en Égypte était suffisamment fort, les Hébreux étaient respectés. Et puis à partir du moment où il y a eu un changement de dynastie, on n'a plus tenu compte de l'importance et du prestige de Joseph dans l'histoire de l'Égypte, et la persécution a commencé. Alors, vous voyez l'élément d'analogie que vous allez noter et qui nous explique la suite. Ce changement de dynastie, ici avec Assuérus comme nouveau roi, va faire venir au pouvoir le parti des Amalécites en Perse. C'est clair? Alors, je vous donne le verset, c'est dans le livre de Shmot, je vous donne la référence, vous le retrouverez, pour ce que je vous ai dit concernant l'Égypte. Vayakom melech hadash, asher lo yada et Yosef. Vous connaissez ce verset? Alors, quelle est la référence? Pas premier verset, premier chapitre, verset 5, slicha, 8, dans ce mot. Premier chapitre, verset 8. Et où la Torah nous dit qu'un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte, un nouveau roi qui ne connaissait pas, qui n'avait pas connu Joseph. Bon, le Midrash explique qu'il faisait semblant de ne pas le connaître. Comme si on pouvait savoir, on pouvait être roi d'Égypte et ne pas savoir quelle avait été l'importance de Joseph pour l'histoire en Égypte. Okay? Bon, là, nous avons quelque chose d'analogue qui est indiqué dès le premier verset. Vaïhi bimé Achashverosh. Tout cela est arrivé, et ce fut, comme on traduit, au temps de Assuérus, ou Achashverosh, ce même Assuérus, à Molech, Mehodou, Vehadkush, qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Hodou, c'est l'Inde, et Kush, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie est un peu le Soudan d'ailleurs aussi, tout ça, ça s'appelle Kush. Bon. Chevarve Esri Moumé à Médina, 127 provinces. Médina, c'est dans l'hébreu moderne, c'est un mot qui signifie donc un état. Mais la Médina, en arabe, ça voulait dire la ville, la Médina. Et en hébreu de ce temps-là, l'hébreu du temps de la du Beit Sheni, du Beit Rishon, ça veut dire une province ou un royaume. Bayami Maem, en ces temps-là, Beshevet Amenech Achashverosh, Alkise Malchuto, suivez sur le texte. En ce temps-là, lorsque le roi Assuérus a voulu affermir son trône, vous voyez, c'est relié encore au fait qu'il y avait eu une révolution, un changement de dynastie, et lorsqu'il a eu finalement installé son régime, et Malchuto, le trône de son royaume, Asher Veshushan Abira, qui se trouve à Suse, la capitale, verset 3, Bishnat Shalosh Lemolcho, à la troisième année de son règne, à sa michté, il a fait un festin, l'Echol Sarav Avadav, à tous ses princes et ses serviteurs. Oui, les princes, c'est donc ses conseillers, on pourrait dire, aujourd'hui on dirait ministre, mais avant c'était. Bon, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. C'est-à-dire, on choisissait comme ministre ceux qui étaient les princes des peuplades que l'on gouvernait. parmi les princes des peuplades que l'on gouverne. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, c'est un autre système. Donc, Barabadav et ses serviteurs, il y a déjà une indication, comme au temps de l'Égypte, Avde Paro, les serviteurs de Pharaon, qu'il y a un parti de la cour qui est au pouvoir. Alors, le jour où il a jugé que son régime était suffisamment stable, il a fait un grand festin pour inaugurer cela. On continue. Chel Paras Umadai, et il s'agit de l'armée de Perse, de la Perse et de la Médie, à Parthémim, ça c'est un mot qui est dérivé du persan, ça veut dire les satrapes, c'est-à-dire les gouverneurs des provinces, Parthémim, mais Saré à Médinote, et les princes des royaumes, les fanaves devant lui. Il a convoqué, et par conséquent, tous les représentants des peuples qu'il gouverne. Tout de suite, on est averti, il y a un problème. Et les juifs, quoi? Comment ils rentrent dans ce système? Vous suivez? Beharoto et Rocher Kevon Malchuto, son intention, son propos était de montrer, de dévoiler la richesse de la gloire de son royaume. Vous savez, il a fait une très grande fête. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu la dernière dynastie de Perse avec le chat. Les grandes fêtes ont été faites il y a quelques années pour le 2000 anniversaire de Cyrus, d'Afka, celui-là, Ken. Deuxième millénaire, et où Israël n'a pas été invité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Il y a eu un incident diplomatique énorme, puisque les Arabes n'ont pas voulu, alors les Perses ont dit l'âme. Vétiekar, Tiferet, Gedulato, de grandes fêtes de ce genre, comme les grands empereurs étaient habitués de le faire. Vétiekar, Tiferet, Gedulato, je traduis rapidement, ça veut dire, et le prix de la magnificence de sa grandeur, enfin tout ça il faudrait étudier en détail, Yamim Rabim, de nombreux jours, puisque c'était Shmonim Umeaturm, 180 jours de festin. Bon. Ubimlot a Yamim Aele, et à la fin de cette période, suivez sur le texte, Asa Amelech, Lechola Amanim Tsaim Beshushan Abira, le roi a fait pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, les Migadol Vat Katan, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, Mishte Shivat Yamim, un festin de 7 jours. Bahatsar Ginat Bitan Amelech, dans la cour du jardin du palais du roi. Hour Karpas Utrelet, tout était décoré en tenture blanche, verte, bleue, Achuz Bechablevuz Vergaman, qui était tenu par des cordons de soie et de pourpre, Algili Le Kesev, sur des colonnes d'argent, Vermoudeshesh, et des colonnades de marbre. Mitod Zahava Kesev, des lits d'or et d'argent, Alispat Bahad Vashesh, sur des planchers de porphyre et de marbre, Shesh, c'est le marbre à Siven, Vesoharet, et de, comment vous appelez ça, de granit, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez une description de la richesse de cet empire, puisque au bout de la troisième année de son règne, il est capable de faire une telle débauche de magnificence. Lorsqu'on étudie ce texte, Alpiasso, d'un peu plus en détail, bon, ça renvoie à des structures de la création du monde lui-même. Je vous signale simplement pour vous dire que les détails ne sont pas ici pour rien, mais enfin nous lisons au niveau de la lecture historique. C'est-à-dire que c'est une civilisation d'une grande richesse, d'une grande valeur, pleine de valeurs. Donc, fascinante. Mon cher être, comment dire, attirante, assimilatrice, si j'ose dire. Okay. Après cette même épreuve que les Hébreux avaient eue dans la grande civilisation de l'Égypte, voilà que les Judéens, qui sont les rescapés des Hébreux, vont avoir cette épreuve à un niveau, je pense, un peu différent de la relation à l'Égypte. C'était pas le même type de civilisation, mais à un niveau aussi grave de danger. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est intentionnellement que le texte montre dans quel type de civilisation les Judéens vont être soumis à cette épreuve de l'assimilation. C'est clair? Bon, alors on continue. Verset 7. Là, c'est important pour notre sujet. Ve'ashkot bichle zahav. Et on servait à boire dans des ustensiles d'or. Ve'kelim mikelim shonim. Et les kelim, retenez bien ce mot, keli, ça veut dire les ustensiles, les vases, ok. Mikelim shonim, étaient de différentes sortes. Yen Malchut Rav, et le vin du royaume était nombreux, littéralement, Keyad Amelech, selon la main du roi. Ça veut dire qu'il y avait non seulement abondance, mais il y avait, et comme on va le voir après, pas de contraintes, mais il y avait une grande abondance. Chacun pouvait se servir à sa, comment dire, comment dire en français ?
À volonté.
À volonté. Non, plus exactement. Chacun pouvait se servir selon son choix. Il pouvait choisir dans quel vase il voulait boire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On va voir tout de suite. Hein. Bon. Vous voyez, le verset est très clair. C'est un empire très libéral. Okay. Très riche, on invite tout le monde, et en fait, on en dit, servez-vous comme vous voulez. Les ustensiles étaient des ustensiles différents, de toutes sortes, et le vin du royaume était offert selon la main du roi, c'est-à-dire avec prodigalité. Voilà, je voudrais que vous mettiez bien ça en évidence. Une civilisation très libérale, avec beaucoup de valeurs, et très attirante, et très comment dire, séduisante, c'est le mot que je cherchais. Okay? Bon. Retenez, en tout cas, pour l'hébreu, c'est important, je ne sais pas si vous le rencontrez encore cette année, quand on veut dire en hébreu moderne une hospitalité très généreuse, on dit « Keyad Ameler », selon la main du roi, d'après ce verset. Okay? Retenez bien, ça c'est un mot très joli en hébreu, « Keyad Ameler ». Verset 8. Vachetia kadat enones. Et la boisson, et on a appris qu'il s'agit du vin, bon, la boisson kadat, selon la règle éditée par le roi, date, okay, c'est le mot dont on va servir plus tard pour dire la religion, okay, date. Mais date, ça veut dire étymologiquement la règle, le droit, okay, le statut. Enones. On n'obligeait personne. Il n'y avait pas de contrainte, littéralement. Ones, c'est la contrainte. Kiren Isad Ameler, car ainsi avait institué le roi, Al Kol Rav Beto, surtout celui qui avait un pouvoir dans sa maison, la Asot Kirtson Ish Vaish, de faire selon la volonté de chacun. Ça veut dire, vous voyez, qu'est-ce qui se met en place ? C'est une civilisation très attirante. Et cependant, selon la constitution officielle, il y a liberté absolue. Ça veut dire que cette communauté judéenne, tout de suite, est située à l'intérieur en relation à un empire qui va lui poser le problème de sa fidélité à elle-même ou de l'assimilation. C'est clair ? Ça veut dire que les judéens avaient donc en principe le droit d'être judéens. Okay ? Si vous voulez, prenez pour référence la constitution française. Okay ? Et puis ceci dit, vous voyez tout de suite la générosité du vin de France, okay, au point qu'il y a déjà 30 marques cachères de vins français différents. Oui, de Kelim, Mikelim, Chonou. Tout ça se passe. Okay. Une séduction inouïe. Et alors, le Midrash, sur ces derniers versets, va dire voilà, on était invité à trinquer à la santé du roi, okay, à boire le vin du roi. Mais on était libre de boire ou de ne pas boire. Eh bien, les Juifs ont bu. Et tout de suite, ils ont succombé à l'épreuve. C'est clair ? Vous voyez quel est le... Et imaginez, je ne sais pas, le fait qu'on est invité chez le préfet, et puis alors, je ne sais pas pourquoi, oui, il y a l'anniversaire de la fondation de l'État, et puis le préfet sert le champagne. Et puis voilà, il y a le président du consistoire de la ville invité, et bien il boit le champagne du préfet. Ça a l'air anodin. Et remarquez bien que c'est cela qui nous est raconté pour nous expliquer les catastrophes qui vont menacer cette communauté. Okay. Alors, c'est clair jusque-là. Est-ce que vous aviez remarqué cela ? Qu'il y avait, dans la manière dont c'était dit, dans le texte, une atmosphère de liberté absolue, donc de mise à l'épreuve. Vous l'avez compris par vous-même ? Oui, non ? Vous êtes muet ce matin, là ? Ben. Bon, mais c'est ça qu'il fallait voir. C'est très clair. Donc. Et alors, j'allais quand même ajouter une autre chose un peu plus importante. C'est que pour la tradition, d'ailleurs toutes les traditions en général, mais c'est très formulé dans la tradition de la Kabbalah, c'est le vin qui est le symbole de la sagesse. enfin, qui est le signe de la sagesse. La joie, c'est autre chose. Bon, je vais vous mettre la formule au tableau, nous allons l'étudier. Vous allez ici noter un thème très important, que vous étudierez aussi avec les dynimes. Il y a plusieurs rites importants à Pourim. Il y a des mitzvot très importantes à Pourim. Une des plus importantes, c'est l'épreuve du vin. Oui, tout de suite, ici, la communauté est mise à l'épreuve du vin. Et le sens, vous l'avez déjà compris, c'est l'épreuve de l'assimilation. Bon, là on aborde un sujet important, c'est que dans les grandes étapes de l'histoire que nous raconte la Torah, chaque fois, il y a l'épreuve du vin. Je vais vous en citer quelques-unes, et puis vous retrouverez ici. Bon, il y a d'abord, c'est rattaché d'abord à l'histoire du premier homme. Un des Midrashim nous dit que ce fruit, donc, c'était la vigne. Il y a d'autres Midrashim, mais finalement ça revient au même. C'est, et la première explication que je vais vous donner, c'est ceci. Le résultat du fait d'avoir mangé de cet arbre pour le premier homme, le résultat...